Notre parole de ce matin est tirée dans le livre d'Exode. Exode chapitre 3, versets 7 à 12. La lecture sera faite par la diaconesse Evelyne.
Exode chapitre 3, versets 7 à 12. Il est écrit. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen.
Amen. Le thème de notre prédication ce matin, sauver pour conquérir sa bénédiction. La prédication sera donnée par le révérend Jana Roger.
Alléluia. 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 Ah, chantons Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Disons merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Quand Dieu appelle Abraham, il lui demande de quitter sa nation, sa patrie. Pour un but. Il dit, afin de le bénir et de faire de lui une grande nation. Notre thème de ce matin est intitulé Sauver pour conquérir sa bénédiction. Je voudrais que quelqu'un souligne sa bénédiction. Sauver pour conquérir sa propre bénédiction. Israël était esclave en Égypte. Pendant plus de 400 ans, ils étaient dans l'esclavage. Bien-aimé, l'esclavage peut être spirituel, physique et même mental. On peut être esclave spirituellement, physiquement et mentalement. Et le texte que nous avons lu, le verset 7 nous dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. La souffrance des enfants d'Israël en Égypte. Ils étaient sous la servitude, c'est-à-dire dominés, emprisonnés, manquant de toute liberté. Cette servitude, sur le plan spirituel, ils ne pouvaient pas adorer leur Dieu comme il le fallait. La servitude était également, ou l'esclavage, était aussi lié à leur état d'esprit, leur manière de penser, leur infériorité, leur état d'inférieur, une dépendance à leur maître et même une incapacité à faire quoi que ce soit pour soi-même. Bien-aimés, dans l'Égypte, ce peuple était esclave. De nos jours également, l'esclavage peut se manifester de plusieurs types. On peut être esclave du péché, on peut être esclave d'une coutume, on peut être esclave d'une pensée, on peut même également être esclave d'une secte. Bien-aimé, l'esclave n'a pas de nom. Il n'a pas d'identité. L'esclave ne travaille pas pour lui-même, mais il travaille pour une autre personne. Il ne peut pas bâtir pour sa famille, il ne peut rien faire. L'esclave ne peut rien entreprendre, même quand il aurait une belle pensée, il ne peut pas entreprendre quelque chose pour lui-même. Et quelqu'un me dira que on voit des gens qui sont peut-être dans des sectes et qui jouissent du bonheur de leur travail, entre guillemets. Et je répondrai à cette personne que celui qui est dans une secte ne travaille pas pour lui-même. Il ne travaille pas pour sa famille. Il travaille pour son maître. Sa famille également est la possession de son maître. C'est pourquoi ceux qui sont dans des sectes, ils seront dans des sectes de génération en génération, parce qu'ils sont liés par cet esclavage-là. Bien-aimés, le Seigneur voudrait nous délivrer de toute forme d'esclavage. Alléluia. Et dans ce texte, au verset 8, il dit « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. » C'est ce que le Seigneur est venu faire. Il est venu délivrer ce peuple-là de cet état de servitude, de cet état d'esclavage, de cet état de manque de liberté, de cet état d'emprisonnement. Il est venu délivrer ce peuple-là. Dieu dit, j'ai vu et je suis descendu. Ce n'est pas l'homme qui est en train d'entreprendre ici, c'est Dieu lui-même qui est en train d'entreprendre. C'est de la même manière que Jésus est descendu parce qu'il a vu l'esclavage dans lequel nous étions, esclaves du péché. Et il est allé jusque sur la croix pour nous libérer de toute forme d'esclavage. C'est Dieu qui travaille. Le verset 12 nous dit ceci. Le verset 14, pardon, Corinthiens 14, Exode 14, 14. Il dit ceci. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Je continue la lecture. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ce cri parle aux enfants d'Israël et qu'ils le marchent? Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu d'elle à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Alléluia. Ici, c'est Dieu qui intervient à l'endroit de son peuple. Il fait tout pour son peuple parce que ce peuple ne peut encore rien faire pour lui-même. À partir du verset 17 du chapitre 13, on dit « Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Ce peuple ne pouvait pas combattre, il ne pouvait rien faire, parce qu'il était resté longtemps dans l'esclavage. Alors ce texte nous dit, Dieu va conduire ce peuple quelque part. Est-ce que Dieu va le conduire dans une boîte de nuit? Non. Est-ce que Dieu va le conduire encore davantage dans l'Égypte? Non, c'est pour le faire sortir. Est-ce que Dieu va le conduire dans la dépravation? Non. Le texte nous dit que Dieu va conduire ce peuple dans le désert. Verset 12 de notre texte, il dit, Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Alléluia. Est-ce que le peuple est encore esclave ici? Non. Le peuple a déjà été libéré, a déjà été affranchi. Maintenant, c'est Dieu qui conduit le peuple dans le désert. Et dans cette conduite dans le désert, Dieu a un but spécifique pour ce peuple-là. Apprendre à ce peuple-là à le connaître. Apprendre à ce peuple-là à marcher par la foi. Apprendre à ce peuple-là à dépendre de lui dans les combats. Dieu voudrait révéler sa puissance à ce peuple-là dans une relation intime dans ce désert. Il a fendu la mer Rouge, ils ont vu. Ils arrivent à Mara, l'eau est amère, ils veulent crier, Dieu agit. Oh, il y a manque de nourriture, Dieu pourvoit. Le rocher est dur, Dieu fait couler l'eau du rocher. Dieu montre à ce peuple-là qui est-ce qu'il est exactement. Dieu également, dans ce désert, va contracter l'alliance avec ce peuple, afin que ce peuple apprennent à vivre dans l'identité ou avec l'identité nouvelle qu'il a acquis. C'est un peuple libre pour servir et adorer le Seigneur. Un peuple mis à part pour Dieu. Deutéronome, chapitre 8, le verset 3, mais je vais commencer au verset 2. Et il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié et t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Ce n'est plus seulement par la vue, c'est également par la foi en l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, que le peuple devra avancer. Bien-aimé, dans le désert également, Dieu va délivrer ce peuple-là de lui-même, de sa mauvaise conception de sa personne. Puis le peuple est aux portes de la bénédiction. Dieu dispose la bénédiction à l'endroit de ce peuple-là. Le verset 8 nous dit ceci. Exode chapitre 3, le verset 8 dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éthiens, les Amoriens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Alléluia. Dieu conduit ce peuple-là aux portes de sa bénédiction. Après l'avoir libéré spirituellement, physiquement, mentalement. Et là, aux portes de cette bénédiction, je vais encore lire le verset 2 de Deutéronome, chapitre 28. Deutéronome, chapitre 28, il est écrit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Alléluia. Le peuple est aux portes de ses bénédictions. Est-ce qu'il est encore esclave? Non. Est-ce qu'il ne peut rien entreprendre? Non. Il est doté de toutes ces qualités-là. Il est déjà équipé. Il peut faire beaucoup de choses. Il peut maintenant commencer à travailler, non plus pour n'importe qui, mais comme je l'ai dit au départ, de souligner, conquérir sa propre bénédiction. Alléluia. Il peut commencer à travailler maintenant pour sa propre bénédiction. Alléluia. Et là, aux portes de la bénédiction, le peuple va échouer. L'échec du peuple aux portes de la bénédiction. Bien-aimé, est-ce que tu es affranchi par le Seigneur Jésus? Est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus t'a libéré? Est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus t'a équipé spirituellement, physiquement, mentalement? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus a changé ton identité? Est-ce que tu crois qu'il t'a libéré pour que tu puisses posséder toutes les bénédictions qu'il réserve pour toi? Est-ce que tu le crois? Alors c'est ce qui arrive ici au peuple. Le peuple ici va échouer. Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13. Je vais commencer au verset 29. Verset 29. Les Amalécites habitaient la contrée du Midi. Les Éthiens, les Jébusiens et les Amoriens habitaient la montagne. Et les Cananéens habitaient près de la mer, le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Ils décrirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Et nous avons vu les géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Bien-aimés, l'identité de ce peuple, pour eux, n'avait pas changé. Ici, ils diront, ce peuple est plus fort. Est-ce que ce peuple était plus fort que l'Éternel? Non. La deuxième des choses qu'ils diront ici, c'est, nous étions à leurs yeux, à nos yeux, nos propres yeux, et aux leurs comme des sauterelles. Nous étions inférieur dans tous les domaines. Bien-aimés, si nous ne croyons pas à ce que le Seigneur a accompli, si nous ne croyons pas que nous ne sommes plus sur l'étape de l'esclavage, de la possession, etc., et que maintenant nous sommes aux portes de notre bénédiction depuis que nous avons accepté le Seigneur Jésus dans notre vie, alors nous allons faire naufrage. Nous avons fait naufrage comme ce peuple. Le chapitre 14, du verset 1 au verset 4, dit ceci. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes, nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous mourir de retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Bien-aimés, la mentalité du peuple ici n'avait pas changé. Ils ne croyaient pas qu'avec Dieu, ils pouvaient faire quelque chose. Ils ne savaient pas qu'avec Dieu, ils étaient forts, qu'avec Dieu, ils pouvaient combattre, qu'avec Dieu, ils pouvaient remporter la victoire. Je vais relire ce que dit Josué au chapitre, au verset 30, Caleb au chapitre, au verset 30, il dit, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous serons vainqueurs. C'est ce qu'il le dit, parce que sa mentalité, sa manière de voir, de concevoir les choses avait changé. Il savait que Dieu était capable de faire quelque chose pour ce peuple, pour lui. Alléluia. Et quand nous lisons le verset 11, le verset 11 du chapitre 14 de Nombre dit, « Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui ?» Et à cause de cette incrédulité, le peuple, cette génération-là, va manquer d'entrer en possession de leur bénédiction et ils vont retourner dans le désert pour errer pendant 40 ans. Bien-aimé, l'incrédulité est un grand péché devant l'Éternel. Si Dieu te posait la question en ce matin de savoir qui est-ce que tu es, quelle sera ta réponse? Sûrement tu lui diras, je suis enfant de Dieu. Je le crois. Oh, qu'est-ce que j'ai fait pour toi, ô Seigneur? Sûrement tu diras, tu m'as libéré. Alors si Dieu nous a sauvés, il ne nous a pas sauvés pour que nous demeurons dans un état d'esprit, de mentalité, etc., de personnes qui sont encore sous la domination, qui ne peuvent rien faire, qui ne peuvent pas penser, qui ne peuvent pas agir, qui ne peuvent pas combattre. C'est pourquoi Dieu nous a sauvés. Alléluia. Il nous a libérés, il nous a affranchis, il a bâti sa personnalité en nous, il a renouvelé notre intelligence dans sa présence et il nous a revêtis de grâce et de puissance. Alléluia. Pourquoi? Pour que nous soyons équipés pour conquérir. Pour conquérir notre bénédiction. Pas pour que je reste dans une secte où je vais continuer à travailler pour les autres ou bien pour n'importe qui, où toute ma famille sera toujours livrée à cette secte-là, où ils ne seront jamais libres éternellement, où ils seront toujours sous la domination, où ils auront toujours à faire ce que le gourou de la secte, je ne sais qui, sera en train d'ordonner. Mais pour que j'entre personnellement en possession de mes bénédictions. Alléluia. Et nous le voyons dans le livre de Deutéronome chapitre 28. Je vais faire l'effort de lire rapidement. Il est écrit. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Est-ce qu'on peut dire amen? Okay. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux et les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta hutte seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils fuiront devant toi par sept chemins. Verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu les mettras en pratique, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien et en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Alléluia. Voici toutes les bénédictions qui seront ton partage. On ne dit pas dans ce texte qu'ils sont déjà ton partage, mais on dit qu'ils seront ton partage. Alléluia. Donc il est question ici maintenant que tu t'appropries de chacune de ces bénédictions-là. Et l'Éternel les a déjà disposées les a disposées pour toi. Alléluia. Alors la première ici là, c'est qu'il faudrait t'approprier ton identité dans le Seigneur. Alléluia. Et nous le voyons au verset 9 et 10. Il est écrit: tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu les mettras en pratique. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Alléluia. Il faut s'approprier son identité dans le Seigneur. Et comment s'approprier son identité dans le Seigneur? Cela est écrit ici. Il dit ceci: lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu les mettras en pratique, la parole de Dieu va te sanctifier, la parole de Dieu va te façonner, la parole de Dieu va te purifier, la parole de toi va faire de toi une personne nouvelle. Alléluia. C'est ce qu'elle fera. Et en ce moment-là, ce qu'on va voir, on verra que tu es appelé du nom de l'Éternel. Quand on va te regarder, comme le pasteur de Romains disait, tu seras une lettre écrite de Dieu. Alléluia. Et les gens vont le voir, les gens vont le lire. Pourquoi? Parce que tu auras observé la parole de l'Éternel. Alléluia. Il faut faire quelque chose pour posséder cette bénédiction de l'identité dans le Seigneur Jésus. Alléluia. La deuxième des choses ici là, c'est que le Seigneur dit, la condition c'est: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Ici là, c'est l'obéissance. Quand tu vas obéir à la voix de l'Éternel, alors l'Éternel va te diriger. Alors l'Éternel va t'orienter. Alors l'Éternel va te faire voir ce qui est bien, ce qui est mauvais, ce que tu dois même faire. Il sera là pour te conduire vers ce qui sera prospère pour toi. Parce que tu seras en train d'obéir. Tu vas marcher à la suite de ce que le Seigneur sera en train de te dire. La troisième ici là, c'est le combat. Généralement, les enfants de Dieu, on a l'habitude de crier, d'avoir peur, de trembler, etc. Si on dit à quelqu'un: est-ce que tu peux aller dans ton village? Il dit: hey, il y a les sorciers là-bas. Oh, je ne peux pas. Bien-aimé, s'il y a tes bénédictions dans le village, à cause de la peur des sorciers, tu vas abandonner cela et ils vont tout prendre. Ils vont tout prendre. Quand tu vas entendre un bruit sur le toit de ta maison, tu vas commencer à dire: oh, la maison s'y est possédée, tu vas fuir. Mais ici, le Seigneur voudrait que tu entres en possession de la victoire. Alléluia. Et pour entrer en possession de la victoire, il faut combattre. Alléluia. Il faut combattre pour posséder, pour être victorieux. Si tu ne combats pas, tu n'auras aucune victoire. Alléluia. Bien-aimé, si Satan se lève contre toi, dis-lui comme David: tu marches contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Si ta foi est en train de vouloir faillir, oh, dis: revêt-toi des armes de l'esprit et entre dans le combat, parce que tu as la capacité maintenant de combattre et de vaincre. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu. La troisième ici là, la quatrième ici, c'est au verset 11b et 12. Il dit, l'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer en ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Alléluia. Ici, la bénédiction ici, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, j'ai la capacité de travailler. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? J'ai la capacité d'entreprendre pour moi-même. Est-ce qu'on peut dire amen? J'ai la capacité de travailler pour ma famille. Est-ce qu'on peut dire amen? J'ai la capacité de travailler pour ma nation. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Et quand je me mets au travail, alors le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il bénit l'œuvre de mes mains. Alléluia. Si je croise les mains, si je ne travaille pas, il n'y aura aucune bénédiction. Je serai toujours vaincu. Mais si je travaille, le Seigneur va bénir l'œuvre de mes mains. Alléluia. Bien-aimé, ne regarde pas trop au travail, mais regarde à ce que le Seigneur va faire quand tu seras en train de travailler. Alléluia. Il va bénir ton travail. Lève-toi, travaille et laisse que le Seigneur bénisse ce travail-là. Alléluia. Je vais rendre deux témoignages par rapport à la pensée. Le premier témoignage, est-ce qu'il y a quelqu'un où il y a le son là-bas derrière? Est-ce qu'il y a quelqu'un à la cabine de son là-bas derrière? Alléluia. Voilà, exactement. Ok. Est-ce que celui qui est à la cabine de son peut couper le son? Alléluia. Est-ce qu'il peut couper? Ça veut dire que le micro est important. Mais il y a une chose qui est encore plus importante, c'est la cabine de son qui est derrière là-bas. La première fois que j'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la cabine de son? On n'a pas pu réaliser quelque chose, n'est-ce pas? Parce que c'est un travail qui parfois peut être pris comme à la légère. Mais si tu te mets profondément à travailler dans cette chose-là, tu deviens une source de bénédiction et tout le monde peut entendre dans l'église. Alléluia. Bien-aimés, ne négligeons pas ce que nous sommes en train de faire, mais faisons-le avec entrain. Le deuxième témoignage que je vais rendre, c'est celui d'un peuple. C'est la Corée du Sud. J'y suis allé et on m'avait dit que c'était un pays qui était très pauvre. Il y a sûrement des Coréens dans la salle. On m'a dit que c'était un pays qui était très très pauvre. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu des gratte-ciel, mais j'ai vu un pays totalement tout bâti, un pays qui prospère. Et je me suis demandé, Seigneur, comment ce pays qui était pauvre a pu devenir aussi riche? Et pendant qu'on se baladait dans les musées, le Seigneur m'a permis de voir quelque chose. J'ai vu des Coréens qui n'étaient rien, qui étaient comme on disait réellement, pauvres. J'ai vu des Coréens qui n'étaient pas conscients. Ils vivaient pour vivre. Et j'ai vu des Coréens qui avaient pris conscience qu'ils pouvaient faire quelque chose parce que l'Évangile était entré dans cette nation. Est-ce qu'ils étaient déjà riches? Non. Mais est-ce qu'ils étaient encore maudits? Non plus. Ils avaient déjà reçu l'Évangile. Ils avaient changé d'identité. Alléluia. Et pendant que je regardais ces images, ces Coréens qui avaient changé d'identité, qui étaient devenus des hommes libres, qui pouvaient travailler, ils ont commencé à bâtir, pas avec des parpaings. Le parpaing est solide, n'est-ce pas? Mais ils ont commencé à bâtir avec des briques et pieds nus. Ils étaient dans la boue et ils travaillaient. Ils étaient dans la boue et ils travaillaient. Et ils travaillaient maintenant parce qu'ils savaient. Ils savaient qu'il y a de l'avenir. Ils savaient qu'il y a de l'espérance. Ils savaient que les choses pouvaient changer. Même si ça n'avait pas changé maintenant, mais ce qu'il fallait faire dès maintenant, c'était de commencer à travailler. Alléluia. Et ils ont commencé à travailler. Je ne dis pas les parpaings, je dis les briques. Ils ont commencé à poser ces briques-là. Ils ont commencé à travailler pour leur nation. Ils étaient toujours pauvres, certes, mais dans leur mentalité, les choses avaient changé et le travail qu'ils étaient en train de faire commençait à porter du fruit. Alléluia. La génération-là est sûrement partie. La génération qui est venue a commencé à bâtir avec quoi ? Avec des briques. Parce que la première génération avait commencé, la deuxième génération pouvait continuer. Et après cette génération, il y a encore une autre génération. Et maintenant, quand nous voyons cette nation, elle est une nation bénie. Alléluia. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ont cru qu'ils étaient devenus libres dans le Seigneur Jésus, que le Seigneur les avait affranchis, qu'ils avaient la capacité de travailler. Et dans leur travail, le Seigneur allait les bénir. Alléluia. Et la nation aujourd'hui est bénie. Bien-aimé, tu as la capacité de travailler, quel que soit ton état en ce jour. Tu as la capacité de travailler et le Seigneur va bénir ce travail-là. Mets-toi au travail. Si tu as l'espérance, si tu crois à ce que le Seigneur veut faire, mets-toi au travail, ne croise pas les mains. Alléluia. De la même chose pour les familles. Ne dis pas que ma famille est pauvre. Dis, le Seigneur m'a affranchi. Il m'a libéré et il m'accorde la capacité de pouvoir travailler pour que cette famille soit relevée dans le nom de Jésus. Alléluia. Ne dis pas que ma nation est pauvre. Si tu dis que ta nation est pauvre, tu vas continuer à faire du n'importe quoi parce que tu vas croire que c'est parce que ta nation est pauvre que les choses ne marchent pas. Non, ce n'est pas ça. Mets-toi au travail et tu verras que ta nation va également changer. Alléluia. Ne bâtis pas sans la foi, mais bâtis avec de l'espérance. Alléluia. Travaille avec de l'espérance. Et le Seigneur va bénir ton l'œuvre de tes mains. Alléluia. La troisième, la cinquième chose ici là que j'ai mise, c'est le mariage, se marier. Alléluia. Il y a des jeunes ici là dans la salle. Il y a ceux qui aiment dire mon petit ami, mon petit copain. C'est quel type de bénédiction ça? La bénédiction d'une petite, d'un petit ami, d'un petit copain. Il y a même le concubinage. Oh, mon concubin, ma concubine. Et puis, ils vont appeler ça la bénédiction. Ça, c'est quel type de bénédiction ça? C'est pas là que le Seigneur t'a appelé, alléluia. Le Seigneur t'a appelé. Il veut bénir tes entrailles. Alléluia. Et pour bénir tes entrailles, il t'invite au mariage. Alléluia. Bien-aimé, sors de cela, sors de là-bas et marie-toi. Si c'est difficile, prie, le Seigneur va ouvrir les portes. Comme on va célébrer le mariage de notre frère ce vendredi, il va ouvrir les portes et le fruit de tes entrailles sera béni. Alléluia. De génération en génération, ce sera un fruit béni. Alléluia. Sortons de là, entrons en possession de nos bénédictions. La sixième ici. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Alléluia. Bien-aimé, on ne triche jamais avec le premier. On ne triche jamais avec le premier. Que ce soit à l'école, que ce soit dans un concours, on ne triche jamais avec le premier. Que ce soit même dans le lieu de service, on ne triche pas avec le premier. On n'empêche pas au premier de posséder ce qu'il voudrait posséder. Alléluia. On le cherche, on le fouille, on a besoin de lui parce qu'on sait qu'il est capable de faire beaucoup de choses. Le Seigneur dit qu'il fera de toi quoi? La tête, tu seras en haut et non en bas. Alléluia. Bien-aimé, si tu es élève, mets-toi au travail. Si tu veux faire un concours, bien-aimé, mets-toi au travail. Peut-être qu'on va commencer à jongler avec le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième là-bas. Mais mets-toi au travail pour être le premier. Alléluia. Et quand tu seras premier dans ce concours-là, même si on dit que ta nation est corrompue et qu'on met les gens par, on va te prendre. Alléluia. On va te prendre dans ce concours-là. Pourquoi? Parce que tu es là. Tu es la tête. Alléluia. Parce que tu es la tête. On pourra dire, oh, il y a 10 places. Mais parmi les 10 places là, il y a ta place parce que tu seras là, la tête. Alléluia. Donc quand le Seigneur dit ici là qu'il fera de toi la tête et non la queue, bien-aimé, c'est dans tous les domaines, dans ton lieu de service, partout où tu es. Oh bien-aimé, arrache cette bénédiction là. Alléluia. Arrache-la. Et le Seigneur te donne des capacités de posséder cela. Bien-aimé, Est-ce que nous voulons conquérir les bénédictions qui sont à notre disposition? Est-ce que tu voudrais être béni? Est-ce que tu voudrais arracher tes bénédictions? Je ne parle pas comme un charlatan, non. Est-ce que tu voudrais arracher ces bénédictions-là? Quelle est ton identité? Est-ce que tu t'es approprié de cette identité d'enfant de Dieu? Est-ce que tu es une personne obéissante au Seigneur? Est-ce que tu t'élèves pour combattre et sans croiser les mains? Est-ce que tu te mets au travail? Bien-aimé, est-ce que tu cherches que tes entrailles soient bénies? Est-ce que tu voudrais être la tête? Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur? Père, nous te bénissons en ce matin parce que tu es vivant, Seigneur. Tu ne nous as pas sauvés pour rien, mais tu nous as sauvés, Seigneur, parce que tu voudrais que chacun de nous, Seigneur, soit béni, Seigneur, en toi. Père, accorde-nous la grâce et le privilège, Seigneur, de posséder, Seigneur, ces bénédictions et de jouir de toutes les grâces qui découlent, Seigneur, de toi. Père, que ton nom en ce matin soit béni. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.